Deuxième partie. L'Artois et le Conclave. Chapitre 1. L'arrivée du comte Robert. Une douzaine de cavaliers, venant de Doulance et conduits par un géant en cotte d'armes rouge sang, traversèrent au galop le village de Bouc-Maison et puis s'arrêtèrent à Santoise de là. La vue depuis cet endroit découvrait un vaste plateau de terre à blé, coupé de vallonnements, de hêtraies et qui descendait par paliers vers un horizon de forêt. « Ici commence l'Artois, monseigneur, » dit l'un des cavaliers, le sire Jean de Varennes, en s'adressant au chef de la troupe. « Mon comté ! Voici enfin mon comté !» dit le géant. « Voici ma bonne terre que depuis 14 années je n'ai pas foulée !» Le silence de midi s'étendait sur les champs écrasés de soleil. On n'entendait que la respiration des chevaux soufflant après l'effort et le vol des bourdons ivres de chaleur. Robert d'Artois sauta brusquement à bas de sa monture, dont il lança la bride à son valet Lormet, grimpa le talus en écrasant les herbes et entra dans le premier champ. Ses compagnons restèrent immobiles, respectant la solitude de sa joie. Robert avançait de son pas de colosse à travers les épis, déjà lourds et dorés, qui lui montaient aux cuisses. De la main, il les caressait comme la robe d'un cheval docile ou les cheveux d'une maîtresse blonde. « Ma terre, mon blé !» répétait-il. On le vit soudain s'abattre dans le champ, s'y étendre, s'y vautrer, s'y rouler follement parmi les graminées comme s'il voulait s'y confondre. Il mordait les épis à pleines dents pour trouver au cœur du grain cette saveur laiteuse qu'il a un mois avant la moisson. Il ne sentait même pas qu'il s'écorchait les lèvres aux barbes du froment. Il s'enivrait de ciel bleu, de terre sèche et du parfum des tiges crissantes, faisant autant de ravages à lui seul qu'une compagnie de sangliers. Il se releva, superbe et tout froissé, et revint vers ses compagnons le poing serré sur une glane, brutalement arrachée. « Lormet !» commanda-t-il à son valet. « Dégrafe ma cotte, délasse ma broigne !» Quand ce fut fait, il glissa la poignée de blé sous sa chemise, à même la peau. « Je jure Dieu, mes seigneurs, » dit-il d'une voix éclatante, « que ces épis ne quitteront point ma poitrine que je n'ai reconquis mon comté jusqu'au dernier champ. En guerre, maintenant !» Il remonta en selle et lança son cheval au galop. « N'est-ce pas, Lormet ?» criait-il dans le vent de la course, « que la terre ici a meilleur son sous les sabots de nos chevaux ?» « Certes, certes, monseigneur !» répondait le tueur au cœur tendre, qui partageait en tout les opinions de son maître. « Mais vous avez votre cotte flottante. Ralentissez un peu, que je vous rajuste !» Ils chevauchèrent un moment ainsi. Puis le plateau s'abaissa brusquement. Et là, Robert découvrit, scintillante sous le soleil, dans une vaste prairie, une armée de 1800 cuirasses venue l'accueillir. Il n'aurait jamais cru trouver ses partisans si nombreux au rendez-vous. « Hé, mais Varennes, c'est un beau travail que tu as fait là, mon compère !» s'écria Robert ébloui. Dès que les chevaliers d'Artois l'eurent reconnu, une immense clameur s'éleva de leur rang. « Bienvenue à notre comte Robert ! Longue vie à notre gentil seigneur !» Et les plus empressés lancèrent leurs chevaux vers lui. Les genouillères de fer se heurtaient, les lances oscillaient comme une autre moisson. « Ah ! Voici Caumont ! Voici Soistre ! Je vous reconnais à vos écus, mes compagnons !» disait Robert. Par la ventaille levée de leurs casques, les cavaliers montraient des visages ruisselants de sueur, mais que l'allégresse belliqueuse épanouissait. Beaucoup, petits sires de campagne, portaient de vieilles armures démodées, héritées d'un père ou d'un grand-oncle, et qu'ils avaient fait ajuster tant bien que mal à leur mesure. Ceux-là, avant le soir, se blesseraient aux jointures, et leur corps serait couvert de croûtes saignantes. Tous, d'ailleurs, avaient dans le bagage de leur valet d'armes un pot d'onguent et des bandes de toile pour se panser. au regard de Robert, s'offraient tous les échantillons de la mode militaire depuis un siècle, toutes les formes de haumes et de cervelières. Certains de ces haubères et de ces grosses épées dataient de la dernière croisade. Des élégants de province s'étaient empanachés de plumes de coq, de faisan ou de paon. D'autres avaient la tête surmontée d'un dragon doré, et l'un même s'était plu à visser sur son haume un buste de femme nue qui le faisait beaucoup remarquer. Tous avaient repeint de frais leurs courts écus ou éclataient en couleurs criardes leurs signes d'armoirie, simples ou compliqués selon leur degré d'ancienneté de noblesse, les marques les plus simples appartenant forcément aux plus vieilles familles. « Voici Saint-Venant, voici Longvillers, voici Nédonchel, » disait Jean de Varennes, présentant les chevaliers à Robert. « Votre féal, monseigneur, votre féal, » disait chacun à l'appel de son nom. Féal Nédonchel, Féal Bayancourt, Féal Piquigny, répondait Robert en passant devant eux. À quelques genoux, redressé et tout fier d'être harnaché en guerre pour la première fois, Robert promit de les armer chevalier lui-même s'il se montrait vaillant dans les prochains engagements. Puis il décida de nommer sur le champ deux maréchaux, comme dans l'ost royal. Il choisit d'abord le sire de Haut-Pont-Lieu, qui avait travaillé fort activement à rassembler cette noblesse tapageuse. « Et puis je vais prendre... voyons... toi, Beauval !» annonça Robert. « Le régent a un Beaumont pour maréchal, moi, j'aurai un Beauval !» Les petits seigneurs, friands de jeux de mots et de calembours, acclamèrent en riant Jean de Beauval qui fut ainsi désigné à cause de son nom. « À présent, monseigneur Robert, dit Jean de Varennes, quelle route voulez-vous prendre? Nous rendrons-nous d'abord à Saint-Paul ou bien droit à Arras? L'Artois est tout à vous, vous n'avez qu'à choisir. Quelle route mène à Hesdin?
Celle où vous êtes, monseigneur, qui passe par Frévent.
Eh bien, je veux aller tout d'abord au château de mes pères. » Un mouvement d'inquiétude se dessina parmi les chevaliers. C'était bien la malchance que Robert d'Artois, dès son arrivée, voulut aussitôt courir à Hesdin. Le sire de Soistre, celui qui portait une femme nue sur la tête et qui s'était beaucoup signalé dans les tumultes de l'automne passé, dit
« Je crains, monseigneur, que le château ne soit pas bien en état de vous accueillir.
Eh quoi ? Il est toujours occupé par le sire de Brosse, qui avait placé mon cousin Hutin.
Non, non. » Nous en avons fait fuir Jean de Brosse, mais nous avons aussi un peu ravagé le château au passage.
Ravagé ? Dit Robert. Vous ne l'avez pas brûlé ?
Non, monseigneur, non. Les murs en sont fermes.
Mais vous l'avez un peu pillé, pas vrai, mes gentillets ? Eh ! Si ce n'est que cela, vous avez bien fait. Tout ce qui est à Mao la gueuse, Mao la truie, Mao la catin, est à vous, mes seigneurs, et je vous en fais partage.
Comment ne pas aimer un suzerain si généreux? Les alliés hurlèrent à nouveau qu'ils souhaitaient longue vie à leur gentil comte Robert, et l'armée de la révolte se mit en route vers Hesdin. On arriva en fin d'après-midi devant les 14 tours de la ville forte des comtes d'Artois, où le château à lui seul occupait une superficie de 12 mesures, soit près de 5 hectares. Que d'impôts, de peine et de sueur avait coûté aux petites gens d'alentour ce fabuleux édifice destiné, leur avait-on dit, à les protéger des malheurs de la guerre. Or, les guerres se succédaient, mais la protection se montrait peu efficace. Et comme on se battait essentiellement pour la possession du château, la population préférait se terrer dans les maisons de torchis en priant Dieu que l'avalanche passât à côté. Il n'y avait guère de monde dans les rues à faire fête au seigneur Robert. Les habitants, assez éprouvés par le sac de la veille, se cachaient. Les abords du château n'offraient rien de plus gai. La garnison royale, pendue au créneau, commençait de fleurer un peu la charogne. À la grand-porte, dite porte des poulets, le pont-levis était abaissé. L'intérieur livrait un spectacle de désolation. Des celliers s'écoulaient le vin des cuves éventrées. Des volailles mortes gisaient un peu partout. On entendait des étables monter le meuglement sinistre des vaches pâtrettes. et sur les briques qui pavaient, luxe rare, les cours intérieures, l'histoire du récent massacre s'inscrivait en larges flaques de sang séché. Les bâtiments d'habitation de la famille d'Artois comptaient 50 appartements. Aucun n'avait été épargné par les bons alliés de Robert. Tout ce qui ne pouvait être enlevé pour décorer les manoirs du voisinage avait été détruit sur place. Disparu de la chapelle, la grande croix en vermeil, ainsi que le buste de Louis IX contenant un fragment d'os et quelques cheveux du Saint-Roi. Disparu, le grand calice d'or que s'était approprié Ferry de Piquigny et qu'on devait retrouver en vente un peu plus tard chez un boutiquier parisien. Envolé, les 12 volumes de la bibliothèque. Escamoté, l'échiquier de jaspe et de chalcédoine. Avec les robes, les peignoirs, le linge de Mao, les petits seigneurs s'étaient fournis de beaux cadeaux pour leurs dames d'amour. Des cuisines même, on avait déménagé les réserves de poivre, de gingembre, de safran et de cannelle. On marchait sur la vaisselle brisée, les brocarts déchirés. On ne voyait que courtines de lit écroulées, meubles fendus, tapisseries arrachées. Les chefs de la révolte, un peu penauds, suivaient Robert dans sa visite. Mais à chaque découverte, le géant éclatait d'un rire si large, si sincère, qu'ils se sentirent bientôt ragaillardis. Dans la salle des écus, Mao avait fait dresser contre les murs des statues de pierre représentant les comtes et comtesses d'Artois depuis l'origine jusqu'à elle-même. Tous les visages se ressemblaient un peu, mais l'ensemble avait grand air.
« Ici, monseigneur, fit constater Piquigny, nous n'avons voulu porter la main sur rien. »« Et vous avez eu tort, mon compère, répondit Robert, car j'aperçois en ces images une tête au moins qui me déplaît. L'ormai, une masse !»
Empoignant le lourd fléau d'armes que lui tendait son valet, il le fit tournoyer 3 fois et atteignit d'un coup formidable l'effigie de Mao. La statue vacilla sur son socle et la tête, se détachant du col, alla éclater sur les dalles.
« Qu'il en arrive autant à la tête vivante, après que tous les alliés d'Artois auront dessus pissé à longer !» s'écria Robert.
Pour qui aime briser, il ne s'agit que de commencer. La masse de fer, hérissée de pointes, se balançait menaçante au bras du géant.
« Ah, ma tante bien gueuse, vous m'avez dépouillé de l'Artois parce que celui-ci qui m'engendra !»
Et Robert fit voler la tête de la statue de son père, le comte Philippe.
« Fit la sottise de mourir avant celui-là !»
Et il décapita son grand-père, le comte Robert II.
« Et j'irai vivre parmi ces images que vous avez commandées pour vous faire un honneur auquel vous n'aviez pas droit ? Ah bah ! Ah bah, mes aïeux ! Nous recommencerons tout !»
Les murs tremblaient, les débris de pierre jonchaient le sol. Les barons d'Artois s'étaient tus, le souffle coupé devant cette grande fureur qui dépassait de loin leur propre violence. Comment, en vérité, comment ne pas obéir avec passion à un tel chef ? Lorsqu'il eut terminé d'étêter sa race, Robert jeta la masse d'armes à travers les vitraux d'une fenêtre et dit en s'étirant
« Nous voici à l'aise pour causer maintenant. » « Messire, mes féaux, mes compains, je veux d'abord qu'en toute ville, Prévôté et Châtellenie que nous allons délivrer du joug de Mao, il soit inscrit les griefs que chacun a contre elle, et que le registre soit exactement tenu de ses mauvaisetés, afin d'en envoyer compte précis à son beau-fils, Messire Porte-Close, car il enferme tout dès qu'il paraît, cet homme-là, les villes, le conclave, le trésor. » À Messire Cour de l'Œil, autrement dit notre seigneur Philippe le Borgne, qui se proclame régent et qui fut cause qu'on nous ôta voici 14 ans, ce comté, afin qu'il puisse, lui, s'engraisser de la Bourgogne. Que l'animal en crève, la gorge nouée dans ses tripes.
Le petit Gérard Quiérez, l'homme habile en procédure qui avait plaidé devant la justice royale la cause des barons artésiens, prit alors la parole et dit
« Il est un grief, monseigneur, qui intéresse non seulement l'Artois, mais tout le royaume. Je gage fort qu'il ne serait pas indifférent au régent, qu'on sût comment son frère Louis Xe est mort. »«
Par diable vif, Gérard, crois-tu donc ce que je crois moi-même ?
As-tu preuve qu'en cette affaire aussi, ma tante a poussé sa malice ?»«
Preuve, preuve, monseigneur, c'est vite dit. Mais fort soupçon, à coup sûr, et qui peut être étayé par des témoignages. » Je connais à Arras une dame qui s'appelle Isabelle de Ferrienne et son fils Jean, vendeur tous deux de magisserie, qui ont fourni à certaines damoiselles d'Hirson, la Béatrice, « Celle-là, je vous en ferai un jour présent, mes compagnons, » dit Robert. « Je l'ai vue à quelques reprises et je devine, rien qu'à son air, que c'est régal de cuisses. »
Les Ferriennes lui ont donc fourni, pour Madame Mao, du poison à tuer les cerfs, 2 semaines au plus avant que le roi ne trépasse. Ce qui pouvait servir pour cerf pouvait aussi bien servir pour roi. Les barons montrèrent par leur gloussement qu'ils appréciaient ce jeu de mots à leur portée.
C'était de toute manière poison pour porte-corne, enchérit Robert. Dieu garde l'âme de cocu de mon cousin Louis.
Les rires montèrent d'un ton.
Et cela paraît d'autant plus vrai, messire Robert, reprit Quérez, que la dame de Ferrienne s'est vantée l'autre année d'avoir fabriqué le filtre qui remit en accord messire Philippe, que vous appelez le borgne, et madame Jeanne, la fille de Mao.
Catin comme sa mère! Vous avez eu bien tort, mes barons, de ne pas étouffer cette vipère quand vous la teniez à votre merci, ici même l'automne dernier, dit Robert. Il me faut cette femme Ferrienne et il me faut son fils. Veillez à les faire prendre dès que nous serons à Arras. À présent, nous allons manger, car cette journée m'a donné grand faim. Qu'on tue le plus gros bœuf aux étables et qu'on le fasse rôtir entier, qu'on vide l'étang des carpes de Mao et qu'on nous porte le vin que vous n'avez pas achevé de boire.
2 heures après, le jour étant tombé, toute cette fière compagnie était ivre à rouler. Robert envoya Lormet, qui tenait assez bien le mélange des crus, rafler en la ville, avec l'aide d'une bonne escorte, ce qu'il fallait de filles pour contenter l'humeur gaillarde des barons. On ne regarda point de trop près si celles que l'on tirait de leur lit étaient pucelles ou mères de famille. Lormet poussa vers le château un troupeau en chemise de nuit, bêlant de frayeur. Les chambres saccagées de Mao devinrent alors le lieu d'un friand combat. Les hurlements des femmes donnaient de l'ardeur aux chevaliers qui s'empressaient à l'assaut comme s'ils avaient chargé les infidèles, rivalisaient de prouesse au déduit et s'abattaient à 3 sur le même butin. Robert tira pour lui-même par les cheveux les meilleurs morceaux sans mettre beaucoup de façon aux déshabillés. Comme il pesait plus de 200 livres, ses conquêtes en perdirent même le souffle pour crier. Pendant ce temps, le sire de Soistre, qui avait égaré son beau casque, se tenait plié les poings sur le cœur et vomissait comme gargouille pendant l'orage. Puis ses vaillants, l'un après l'autre, se mirent à ronfler. Il eût suffi d'un homme cette nuit-là pour égorger sans fatigue toute la noblesse d'Artois. Le lendemain, une armée aux jambes molles, aux langues empesées et aux cervelles brumeuses se mit en chemin pour Arras. Seul Robert paraissait aussi frais qu'un brochet sorti de la rivière, ce qui lui acquit définitivement l'admiration de ses troupes. La route fut coupée de halte, car Mao possédait dans les parages quelques autres châteaux dont la vue réveilla le courage des barons. Mais lorsque le jour de la Sainte-Madeleine, Robert s'installa dans Arras, en vain chercha-t-on la dame de Ferrienne. Elle avait disparu.